play mode, don't need no drama. Everybody know I ain't about that drama, oh yeah. Oh, look at where I started. I'ma tell you right now, I plan on chilling so hard right now. Ain't taking no calls right now. I'm kicking back and I'm lighting up, doing what the fuck I want. Just roll the wood, I'm feeling good, just me, myself, and this blunt. Everything I do is way up, man. If anybody good, I swear it's us, man. I'm vibing, I'm chilling, I'm good. I'm kicking back and I'm vibing, I'm chilling. I'm good, I'm kicking back and I'm vibing, I'm chilling, I'm good, I'm kicking back and I'm kicking back and I'm kicking back and I'm vibing, I'm chilling, I'm good, I'm kicking back and I'm good. Everything good over here, yeah, everybody know I ain't about that drama. Everything good over here, yeah, everybody know I ain't about that drama, oh yeah. Oh, look what it started. I'ma tell you right now, I plan on chilling so hard right now. Ain't taking no calls right now. I'm kicking back and I'm lighting up, doing what the fuck I want. Just roll the wood, I'm feeling good, just me, myself, and this blunt. Everything I do is way up, man. If anybody good, I swear it's us, man. I'm vibing, I'm chilling, I'm good. I'm kicking back and I'm vibing, I'm chilling, I'm good. I'm kicking back and I'm vibing, I'm chilling, I'm good. I'm kicking back and I'm kicking back and I'm kicking back and I'm vibing, I'm chilling, I'm good. I'm kicking back and I'm good. Man, first break in a minute, can't remember not having going to work. Chilling by my mama crib, food smelling bomb, and I even went to church. Full tank in a whip, going for a little dry hair. Said I'm thinking about your school for a ride, then pop it up in surprise, and niggas that haven't heard from me. And I know they be missing me, I'm as busy as ever, it feel good to be on. It feel good to be smoking with all my niggas, thinking about the shit we used to be on. No lie, man, I really get the feeling, the shit is coming together. Good food, good weed, saw the fam, I ain't seen it, couldn't get any better. I'm vibing, I'm chilling, I'm good. I'm kicking back and I'm vibing, I'm chilling, I'm good. I'm kicking back and I'm kicking back and I'm kicking back and I'm vibing, I'm chilling, I'm good. I'm kicking back and I'm good.
J'écoute Radio Galère aujourd'hui, émission du 30 octobre 2024. Nous avons des invités, voilà, ils vont d'ailleurs se présenter eux-mêmes. Bonjour les invités, à vous de vous présenter.
Alors, bonjour, bonjour Daniel, Jean-Marie. Merci d'abord à Radio Galère de l'invitation et à toi Daniel pour de nous avoir invités aujourd'hui. Donc moi c'est Jean-Marie Angéli, je suis secrétaire général de la CGT, de la CEPAM 13, donc CEPAM 13, c'est la caisse primaire d'assurance maladie, donc c'est la branche maladie de la sécurité sociale. Voilà.
Bonjour, moi c'est David Garcia, je suis secrétaire général du syndicat UGIC-CGT, donc les cadres de la CEPAM 13 aussi. Et merci pour l'invitation.
Et donc bonjour à tous, merci Daniel encore une fois pour l'invitation. Bonjour à nos auditeurs, parce qu'on a averti qu'on était sur le 88.4 aujourd'hui. On a parlé aux salariés de la CEPAM 13. Bonjour aussi donc aux salariés, mais également aux assurés qui nous écoutent. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de nos salaires, parce que vous savez qu'on a une action et qu'on fait malheureusement partie des salariés de France qui ont du mal à se loger avec les petits salaires qu'on a. Et vous allez voir qu'on va faire le lien aussi avec le projet de loi de financement de sécurité sociale qui est en débat à l'Assemblée cette semaine et qui là concerne l'ensemble des assurés. Voilà, donc on souhaitait passer le bonjour à nos collègues, certains collègues qui sont en télétravail, qui bossent et qui peuvent du coup nous écouter en même temps. Et on a beaucoup, beaucoup de revendications à mettre en avant côté salarial.
Mais c'est parfait. Allez, à vous de...
Du coup, j'enchaîne sur le 7 novembre. Le 7 novembre, vous savez qu'il y a une provocation, la provocation ultime, la provocation de trop de la part de nos directions nationales, puisqu'ils organisent un observatoire régional de la rémunération. Alors, ils nous font croire que, vu de Paris, ils n'arrivent pas à cerner nos salaires, mais la réalité, c'est qu'ils vont s'organiser une petite réunion sur notre compte à tous. Et vous savez que les salaires à la caisse, c'est malheureusement au roi des pâquerettes, que c'est une provocation dans le sens où ils savent très bien qu'on est très mal payé, puisque ça fait de très nombreuses années qu'on revendique des augmentations de la valeur du point, que cette valeur du point a augmenté de 5% depuis 2010, pendant que le SMIC, un SMIC misérable, on est d'accord, a augmenté d'à peu près 30%. Donc le compte n'y est pas, on a du mal à se loger, et ils organisent un observatoire, et nous on va aller les attendre à Valmante, au siège, parce que seront présents ce jour-là l'ensemble des directeurs des caisses de sécurité sociale, c'est-à-dire, Daniel, pour te préciser, c'est les directeurs de la CAF, de la CARSAT, des URSAF et des CEPAM, de la région PACA, donc plus Corse, plus toute l'Occitanie. Donc, il nous semble qu'il va falloir les recevoir de manière massive, être très nombreux devant notre siège ce jour-là, pour leur faire entendre que les salariés de la plus grosse caisse de France sont clairement pas satisfaits, sont en colère par rapport à la rémunération qu'on peut avoir. Voilà, donc on appelle ce jour-là à la grève, à la manifestation devant le siège, et après on parlera aussi de tous les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que salarié de l'assurance maladie, et comme on est impacté également sur la qualité de service qu'on peut rendre aux assurés sociaux, quoi.
Moi, si je peux rajouter, on entend souvent cette petite musique comme quoi les agents des caisses de sécu seraient des fonctionnaires et seraient des privilégiés. Déjà, on n'est pas fonctionnaire, hein, faut le rappeler. On a un contrat de droit privé, donc on est salarié avec mission de service public. Ceci étant dit, est-ce qu'on est des privilégiés ? Comme l'a très bien dit Sébastien, aujourd'hui, la situation elle est critique pour de nombreux salariés. On a beaucoup, nous, on est des défenseurs du personnel, et on a beaucoup, beaucoup de salariés qui font appel à nous parce qu'ils sont dans un désespoir total. Impossibilité de se loger, Sébastien l'a dit, mais aussi on fait partie de ce qu'on appelle la fameuse classe moyenne, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais en tout cas c'est ces personnes en fait qui n'arrivent plus à vivre correctement de leur travail. Quand vous avez un salaire qui est pratiquement gelé depuis 15 ans, on a eu 5%, là, Sébastien l'a dit, mais ça a été en 2022 et 2023, mais parce qu'on a été embarqué avec les fonctionnaires d'augmentation. Mais il faut savoir que ce point ne bouge pas, il est gelé, et il va falloir très vite qu'on fasse le lien avec les budgets dérisoires, j'insiste, qui sont donnés à tous les services publics, et plus particulièrement à ceux de sécurité sociale. Parce qu'on fait partie de ces budgets-là. Et il faut savoir que nous, salariés de l'assurance maladie, mais aussi des autres caisses de sécu, on coûte vraiment très peu cher à notre employeur. Hein, si on compare, parce que nos directeurs se prévoient de le faire, de comparer. Ils comparent chaque fois au privé. Un agent d'assurance qui travaille dans une mutuelle ou une assurance privée, les frais de gestion pour ces agents-là, c'est entre 13 et 14%, voire 17% du budget chez AXA, de frais de personnel. Nous, on coûte 2 à 3% des frais de gestion pour l'employeur. Donc en fait, tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'on n'est pas des privilégiés loin de là et qu'on fait partie effectivement de l'immense majorité de cette population aujourd'hui, qui est embarqué dans une austérité forcée par les directions. Et franchement, ça ne va plus parce que nos conditions de travail sont terribles. Elles se dégradent énormément. Il y a un départ sur trois seulement qui est remplacé. Et en 20 ans, ben, on fait partie de tous ces services publics hein, qu'on a l'air de s'apercevoir aujourd'hui que, ben, ils sont dans un état très dégradé. Mais tout ça, c'est le fruit d'une vraie politique, voilà, une vraie décision. Hein. Là-dessus, j'insiste.
Bon, alors, moi, je voudrais un peu... On ne va pas se larmoyer sur notre sort, mais il faut être réaliste sur ce qui est en train de se passer dans le pays. Et c'est vrai qu'on vient parler aujourd'hui des personnels de la sécurité sociale, et une grosse partie de la population pourrait dire « mais bon, nous, on est aussi dans la même galère ». Le problème, comme disaient mes camarades précédents, c'est qu'on a rempli quand même une mission de service public, et que nos conditions de travail se dégradent, c'est aussi le service public qui se dégrade, et donc automatiquement, ça a des répercussions sur l'ensemble de la population. Et le constat que l'on fait depuis des années, c'est qu'avec l'appauvrissement des salariés, les directions ont de plus en plus de mal, donc du coup, à recruter. Et donc on se retrouve avec des personnels en très grande précarité parce que nos plus grandes embauches depuis ces dernières années, elles sont au niveau de CDD ou d'intérimaires. Donc on a du mal à embaucher en CDI. Et puis même quand on embauche en CDI, ben, vu le niveau des salaires, puisqu'on embauche au SMIC, hein, vu le niveau des salaires, les gens ne restent pas. Donc vu les difficultés de travail et les conditions de travail, les gens ne restent pas. Donc c'est pas anodin et c'est même pas anodin puisqu'on sait qu'on a des négociations au niveau national où les directions essaient de nous faire croire que c'est des avancées sociales, mais en fait, ils sont en train de nous proposer des plans pour en fait augmenter nos coefficients d'embauche pour pouvoir recruter. C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'on recrute les gens. Après, une fois qu'ils sont dans la boîte, on les laisse se désillusionner et surtout perdre tout sens au travail, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que quand on remplit une mission de service public, il y a un vrai sens. Voilà. Il y a un vrai sens, c'est pas n'importe quel métier. On ne travaille pas dans une mutuelle, on ne travaille pas dans une assurance, on travaille à la sécurité sociale et on a un vrai devoir de réponse aux besoins des assurés. Et là, on est en train de transformer la majorité des salariés, alors d'abord en travailleurs précaires. Et du coup, derrière, l'explication, c'est en gros, de toute façon, on n'en demande pas plus, tu as le salaire qui va avec, et surtout, ne réfléchis pas à ce que tu fais. Donc effectivement, on a aussi, par le biais de la dégradation de nos salaires, une dégradation de notre qualité de travail. Et c'est pour ça que aussi aujourd'hui, on est là pour vous dire que si nous, on va mal, automatiquement, c'est l'ensemble des assurés qui va aller mal, et on le voit depuis des années. Et puis, on fera le lien tout à l'heure avec le débat sur le PLFSS. Donc, c'est pas un gros mot, hein, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est en train, je pense que si vous allumez les médias, qui est en train un peu d'inonder toutes les ouvertures de médias en ce moment. Et donc, nous aussi, on a pas mal de choses à dire là aussi. Mais effectivement, voilà, ne nous trompons pas de cible. Quand on vient dire les personnels de la Sécu ne vont pas bien et méritent de meilleurs salaires, c'est aussi pour mieux travailler et pour rendre une mission de qualité auprès des assurés. Voilà.
Oui. Ben pour revenir à ce qu'on disait, à ce que je disais, pourquoi je parlais de provocation avec l'ensemble des directeurs des deux régions qui vont venir dans notre siège à Valmante, donc. Simplement parce qu'on voit qu'il y a chez nous en fait les éléments de ce qu'ils appellent les éléments de paix, donc les composantes de notre rémunération. Ben, la première, c'est la valeur du point, donc je vous ai parlé tout à l'heure, et ils nous prévoient encore cette année 0% d'augmentation avec une inflation galopante malheureusement. La deuxième, ce qu'a effleuré Jean-Marie, la classification qu'ils sont en train de négocier. Et dont la dernière négociation avait lieu hier, donc le calendrier est pas mal quand même qu'on puisse venir aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils sont en train de jeter des miettes aux salariés, des salariés qui ont 20 ans de caisse, on va leur donner 3 points. Et, voilà, c'est-à-dire que ça varie, pour nous ça va être même pas dans les 30 euros quoi, d'augmentation de salaire. Hein. Et puis, la dernière provocation à laquelle on a eu droit, elle date de la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on a donné des promotions aux agents de la CEPAM 13. Et ces promotions, alors qu'en général, elles sont rétroactives à effet du 1er janvier 2024, cette année, on va faire des économies de bout de chandelle sur le dos des salariés, puisque ces promotions auront effet au 1er avril 2024. Donc ça faisait penser ce que tu me disais, Jean-Marie, hier, c'est-à-dire ça fait penser un peu au décalage en fait du versement des pensions pour les retraités auquel a pensé notre Premier ministre Michel Barnier. On fait des économies de bout de chandelle sur des salariés, sur des retraités, sur des pensionnés, sur des assurés qui sont déjà au bout du rouleau. Et il faut savoir que dans le même temps, si on devait donner encore à nos collègues de travail qui sont à la maison, qui nous écoutent, ou qui, voilà, une raison supplémentaire de venir, il faut savoir que dans le même temps, notre directeur, ou le numéro 1 de la caisse, puisque apparemment c'est anonyme, le bilan qu'on a eu c'est anonyme, le numéro 1 de la caisse s'est lui augmenté de 17 000 et quelques euros l'an dernier en 2023. Si on divise ça, ça fait plus de 1 300 euros par mois. Voilà. Donc, nous, à la CGT, si vous voulez les augmentations de salaire, il n'y a pas de problème. On est généreux, on donne, y compris aux hauts dirigeants des services publics. Pourquoi pas? S'ils ont fait du bon boulot. Mais quand on regarde le boulot qu'a fait notre numéro 1, est-ce qu'il a amélioré la qualité de service rendu aux assurés? Premièrement, non. Est-ce qu'il a amélioré les conditions de travail? On va y revenir, des collègues de la CEPAM 13. Pas du tout. Est-ce qu'il a amélioré nos conditions de vie, c'est-à-dire nos conditions salariales? Encore moins. Donc à un moment, on appelle l'ensemble des collègues de travail à venir, et de tout le département. Tu sais, Daniel, que nous, donc la CEPAM, c'est des Bouches-du-Rhône. Donc on invite les collègues de Arles, de Martigues, de Salon, de Châteauneuf, de Aix, de Gardanne, d'Aubagne. Jean-Marie me regarde parce que je risque d'en oublier, bien entendu.
De Istres.
De Istres, de tout Marseille. On leur fait un petit coucou et on leur dit venez, venez nombreux le 7 novembre pour accueillir et faire une haie du déshonneur à l'ensemble des directeurs d'Occitanie et de PACA plus Corse, parce qu'il va falloir qu'ils nous entendent. Et qu'ils arrêtent de nous observer. Simplement, il faut qu'ils nous augmentent. Voilà, c'est tout. Donc, on réitère cet appel. Et puis, voilà, j'ai effleuré l'histoire des conditions de travail. Je pense que tout à l'heure, on y reviendra.
Ouais. Pour rebondir là-dessus, faut savoir que souvent, moi, je dis que la caisse, c'est un peu un miroir en miniature de ce que vit le pays. C'est troublant, hein, mais on voit des situations qui se reproduisent à l'échelle nationale. Je prends l'exemple de nos salaires et de la personne, le directeur général, qui nous dit « C'est super, la classif, vous allez gagner en moyenne 30 euros brut, soyez contents. » Et le gars qui nous dit ça, il s'est pris 1300 euros d'augmentation. Je veux dire, moi, encore une fois, je le redis, je ne suis pas contre qu'il gagne plus, il a plus de responsabilités. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à vivre de nos salaires, premier point. Ce qui n'est clairement pas le cas. On a aujourd'hui un vrai problème de déconnexion avec les soi-disant élites qui sont censées nous diriger, qui prétendent nous diriger, hein, et je prends national séparé, qui votent des lois ou qui prennent des mesures qui impactent nos niveaux de vie, que ça soit dans le travail, ou si je prends Macron, hein, c'est pas un scoop ce que je vais dire, hein, mais qui prend des lois qui déglinguent tout le monde, sauf sa classe, hein, sa caste de privilégiés, et ces gens-là vous disent « soyez contents ». Au bout d'un moment, je veux dire, le drame qu'on vit, il va falloir que... tout le monde s'en saisisse, parce que ces gens-là prétendent nous gouverner, mais sont totalement déconnectés de nos conditions. Donc c'est même pas qu'ils sont... Moi, je me place pas de point de vue moral, en fait, qu'ils sont méchants ou qu'on est les gentils, c'est pas la question. C'est juste que leurs intérêts sont pas les mêmes que les nôtres. Et manifestement, il faut qu'on leur rappelle. Et j'invite, moi, tous les salariés, et plus particulièrement les cadres, qui en prennent plein la figure aussi, hein, les cadres de la CEPAM, parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, hein, aujourd'hui. Alors, il y a un mot qu'ils aiment pas à la direction, mais je vais le redire, le burn-out. Hein, c'est quelque chose, moi j'ai dénoncé auprès de la préfecture notamment le risque d'orangisation à la CEPAM, je vais y revenir, hein. C'est-à-dire Orange, hein, on a le souvenir de ce procès en 2009, où on a des nombres de cadres de Orange qui étaient en cours de privatisation, qui se sont suicidés.
Et on s'est rendu compte, hein, le directeur général était passé, le directeur d'Orange était passé en procès, il avait été condamné même, hein, avec sa direction, parce que c'est une stratégie délibérée. Il avait dit, s'ils prennent pas la porte, qu'ils prennent la fenêtre. Et il y a des cadres qui se sont défenestrés. Je touche du bois, je souhaite pas qu'on en arrive là, mais chez nous, on a des situations dramatiques, avec des dépressions, avec des burn-out, des gens qui sont détruits à cause du travail.
Des démissions en
pagaille. Voilà. Et ça, ça tombe pas, voilà, tu as raison de le dire, hein. Des démissions aussi de cadres, moi, j'ai des exemples, je peux vous en donner, mais en plus, pas pour des meilleurs postes, hein. Moi, j'ai quand même une adjointe ou chef de centre, donc quelqu'un qui va dire qui gagne correctement sa vie, qui part pour devenir auxiliaire adulte handicapé à 1000 euros, et elle est partie avec la banane, avec le sourire. On en est là, alors qu'on rentre à la Sécu, on est fier de travailler à la Sécu. On rend un service public, et manifestement, ben, aujourd'hui, on a des directions, et ça vient de plus haut, on le sait, hein, c'est des politiques involontaires qui organisent l'appauvrissement, la destruction de nos métiers, et puis qui se fichent un peu de l'humain aussi. Et ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. Je veux dire, en tant que défenseur du personnel, mais aussi des assurés sociaux, on le redit, parce que nous, on défend le service public. Hein. On ne peut pas accepter d'assister comme ça, sans broncher, à une casse organisée, mais en plus par des personnes qui vont vous dire la main sur le cœur. Mais non, ce n'est pas vrai, vous dites n'importe quoi. Je veux dire, il a fallu quand même qu'on gagne un procès dans cette boîte. Hein. On va en parler, à la CEPAM des Bouches-du-Rhône. On en a gagné un procès qui a duré 2 ans et demi contre la direction, où ce n'était plus les illuminés de la CGT qui disaient n'importe quoi, mais c'était la juge qui a condamné la direction, hein, en disant effectivement, il y a entrave au CSE, il y a entrave aux droits syndicaux, hein, il y a non-respect des obligations de santé et de sécurité des conditions de travail, hein, toutes choses dont sont responsables, je veux dire, normalement, la direction, hein, envers les personnels. Et ça, il a fallu que ce soit un juge, hein, qui ordonne des mesures à mettre en place à la CEPAM des Bouches-du-Rhône, qui est quand même une des plus grosses boîtes du département, hein, parce que ben, on ne respectait pas les conditions de santé et de sécurité des personnels en place. Dire ça, au bout d'un moment, ben, ça démontre peut-être un vrai problème. Imaginons une seule seconde, s'il n'y avait pas de syndicat, et on sait que dans plein de petites boîtes, il n'y a pas de syndicat pour défendre, ben, nous, on est fiers de ça, et on va continuer à le faire.
Ouais. Et moi, je voudrais revenir, je prends toujours sur le prisme du général, et, en me disant qu'on parle à des auditeurs, et j'espère qu'il y a de nombreux salariés de la caisse qui nous écoutent, mais pas que. Et donc des citoyens qui galèrent tous les jours dans leur boulot et leur travail. Et refaire le lien avec l'importance et la survie de la sécurité sociale. On a vu à travers des derniers sondages qui sont parus que la priorité des Français, contrairement à ce que la majorité des médias veulent nous faire croire, c'est pas l'insécurité, c'est la santé. Voilà. C'est la santé, la priorité des Français. Et donc effectivement, la santé en France, c'est la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale représente notre modèle social. Et moi, je fais le parallèle avec les salaires, parce qu'il faut quand même se souvenir de ce qui a été dit, puisque c'est des mots qui ont été dits par le président du MEDEF, donc je crois que c'est Richard Martin. Je dis toujours, il a un nom de tennisman, mais donc Monsieur Richard Martin, qui cet été a dit « Mais effectivement, on a un problème de salaire en France ». Même le MEDEF vous dit oui. Le seul hic, c'est qu'il faut augmenter les salaires, mais il faut que ça ne coûte rien au patron. Et ça, il faut que les salariés l'entendent, parce que c'est aussi le discours d'une grosse majorité, du discours de la droite, en fait, en général, et qui nous explique que oui, ils veulent augmenter nos salaires, mais derrière le augmenter nos salaires, généralement, il y a virgule. Et donc leur solution, c'est de rapprocher le salaire brut du salaire net. Et bien souvent, les gens, effectivement, peuvent se dire, ah ben oui, c'est vrai que si, quand ils voient leur bulletin de salaire, si on pouvait toucher le brut, ça serait mieux. Oui, effectivement, mais il faut aussi voir, parce qu'il faut l'avouer aussi, c'est une carence, alors syndicale dans certaines boîtes, mais des fois, ben, c'est juste une carence parce qu'il n'y a pas d'organisation syndicale pour l'expliquer. Pour expliquer aux salariés le bulletin de salaire et expliquer ce qu'est le salaire socialisé. Et donc, en fait, l'importance du brut, c'est-à-dire que derrière le brut, la différence entre le brut et le net, c'est les cotisations, qu'elles soient donc reversées par l'employé ou par l'employeur. Et je ne dis pas, à juste titre, pas de cotisations patronales, parce que ce n'est pas des cotisations patronales, c'est des cotisations des salariés reversées par le patron. Et donc, toutes ces cotisations-là, ben, en fait, c'est ce que vulgairement, les patrons appellent les charges. Vous savez, quand on vous dit qu'ils croulent sous les charges, et là, évidemment, je cible, là, je ne parle pas des commerçants, je parle des grands patrons. Et donc tous ces grands patrons qui gagnent des milliards sont croulent sous les charges. Et donc effectivement, la solution pour eux, c'est de dire... Ben, supprimons, allégeons nos cotisations et comme ça on va aider les salariés. Ça veut dire qu'en fait, en gros, quand on vous soulage pour eux de charges, donc on supprime une cotisation, c'est une partie du financement de la sécurité sociale qu'on supprime. Et vous savez que de toute façon, plus on affaiblit la sécurité sociale et plus on donne la main au privé. Mais je vais revenir dessus après. Moi, je voudrais revenir sur le fond donc du discours, qui est un discours vraiment politique, là. C'est qu'en gros, en fait, on nous explique que les cotisations, c'est dépassé, et que pour aider les patrons, donc pour aider les patrons à nous garder et à nous payer de meilleurs salaires, il faudrait qu'en fait, on s'autofinance, nous, nos salaires. C'est ça le discours de droite. Hein. C'est en gros, on réduit le brut et le net, et comme ça, vous récupérez votre salaire. Mais derrière, ça veut dire comment vous allez vous payer tout ce que vous avez à payer si demain il n'y a plus de service public. Et c'est là où il faut qu'on se pose vraiment la question de ces attaques sur le service public en général, puisqu'on entend là... Dernièrement, vous avez entendu que les fonctionnaires, on est tombé sur les fonctionnaires parce qu'ils ont un nombre d'arrêts de travail. Alors donc, c'est les méchants fonctionnaires, les bons à rien qui ne travaillent pas, etc. Donc moi, j'invite tous ceux qui pensent que les gens, et surtout les fonctionnaires, sont des bons à rien, à aller voir le travail des fonctionnaires, à aller faire la vie d'une infirmière, à aller faire la vie de quelqu'un qui travaille dans une école, qui doit se mettre à surveiller plus de 50 à 100 élèves, qui est dépassé, qui rentre à la maison, qui est complètement abattu, épuisé, et pour toucher un SMIC. Donc déjà, ça, il faut y revenir dessus. Donc c'est la première des choses. Moi, je reviens après sur justement ce que je vous disais tout à l'heure, l'attaque du service public, et donc le fameux discours « plus de cotisations ». Si on amoindrit à chaque fois le financement de la sécurité sociale, ça veut dire que en compensation, on demandera la prise en charge aux mutuelles ou aux assurances. Ça veut dire que vous, qui galérez tous les jours, déjà, en sachant que la sécurité sociale, avec la carte vitale, généralement, vous n'avez rien à payer, demain, on vous expliquera que c'est plus pris en charge. Et par contre, que vous avez intérêt d'avoir une mutuelle d'entreprise ou une mutuelle tout court, hein, parce qu'il n'y a pas que des salariés dans tout le pays, et donc il vous faudra une mutuelle. Et que peut-être que votre mutuelle, oui, elle peut peut-être prendre en charge, mais peut-être elle ne le prend pas, parce que vous ne payez pas assez. Et donc on va se retrouver avec un système anglo-saxon où vous aurez les moyens de vous soigner si vous avez des bons revenus. Et si vous avez comme, on va dire, 80% de la population des revenus moyens ou très bas, ben vous ne soignerez plus. C'est ce qui commence à se faire depuis une bonne décennie. Et c'est le combat qu'on mène, nous, pour faire comprendre aux gens l'utilité, des cotisations et l'utilité de se battre pour la sécurité sociale et notre modèle social solidaire, donc qui passe par la sécurité sociale, mais qui passe aussi par le soutien aux services publics, parce que n'oublions pas que s'il n'y a plus de services publics, dites-vous bien que demain, vous mettez tous vos enfants dans le privé, les transports et les logements, le prix explose. Et que demain, l'électricité ou les énergies, aujourd'hui, c'est un grand débat parce qu'on se dit on ne peut plus les payer. Si demain, il n'y a plus de réel service public, c'est pas vous ne pourrez plus les payer, vous n'en aurez plus. Voilà. Parce que vous n'aurez pas les moyens de les avoir. Donc je pense qu'il faut qu'on remette bien l'église au centre du village et qu'on explique bien les enjeux. Quand nous, on vient vous parler qu'on est en difficulté sur nos salaires, c'est un combat qu'on mène de partout. Mais c'est un combat qui doit être pris en charge par tout le monde. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de se battre pour avoir de réelles augmentations de salaire, parce qu'en face, ils ont des solutions. Hein. Ils vous parlent de primes. Il faut individualiser automatiquement les salaires. Donc, ils vous parlent de cette fameuse exonération de cotisations. Tout ça, c'est des fausses... des fausses propositions, pardon, je cherchais le mot, de fausses propositions pour vous faire croire que vous allez gagner de l'argent. Parce que moi, je parle souvent, parce que je vois des fonctionnaires de la mairie, quand on prend leur fiche de paye, si vous enlevez les primes, ils sont à la rue. Hein. Ce qui fait que certains peuvent gagner bien, c'est parce qu'ils ont des primes. Mais comme j'explique, donc assez personnel, mais comme je peux l'expliquer aussi à des salariés de la Sécurité sociale ou même à des salariés lambda, la prime, ce n'est pas quelque chose d'acquis. La prime, c'est la variable d'ajustement où à un moment, votre patron vous dira bah, « Vous savez, cette année, c'est difficile, donc cette année, la prime, bah, tu n'y en auras pas. » Donc nous, on se bat pour des vraies augmentations de salaire, des réelles augmentations de salaire. Et effectivement, quand on aura de meilleures augmentations de salaire, ça veut dire qu'on aura plus de cotisations, on aura plus de financement pour la sécurité sociale et on vous permettra aussi de mieux vous soigner et de vivre mieux.
Oui, à la CGT, on a une vision grand angle de la défense des services publics, bien entendu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle pas seulement en fait des conditions de travail, des conditions salariales des collègues, des agents de la sécurité sociale, de la CEPAM, mais effectivement de l'ensemble des attaques sur l'ensemble des services publics. En tant que syndicat CGT CEPAM 13, on a le devoir, nous aussi, d'ouvrir les yeux à nos collègues de travail, et c'est pour ça qu'on espère qu'ils sont très nombreux à nous écouter aujourd'hui, sur le fait que ces attaques sur la sécurité sociale ont un impact très important sur leur salaire et sur leurs conditions de travail. Et nous, on vit ça de l'intérieur. Et on doit aujourd'hui le dénoncer, parce que tout ce dont a parlé Jean-Marie et que va sans doute développer tout à l'heure David, le manque de moyens pour les services publics et en particulier pour l'assurance maladie fait que ben, notre direction en vient aujourd'hui à nous dire « Bon, ben alors, on n'a pas les moyens de recevoir les assurés comme on a pu le faire à une époque, c'est-à-dire de manière individualisée, de faire entrer un assuré dans un box, qu'il ait le temps de s'asseoir, qu'on ait le temps de le recevoir, qu'il y ait une certaine confidentialité, parce que vous savez que notre directeur nous parle de secret professionnel, de secret médical, mais il est le premier à le fouler au pied. C'est-à-dire qu'il y a une 10-15aine d'années, on a levé les portes au box à l'assurance maladie dans nos accueils. Donc vous comprenez bien que le secret médical, là, est complètement bafoué. Là où je veux en venir, tout simplement, c'est qu'il y a une incidence directe sur les conditions de travail de nos collègues et ce dont parlait Jean-Marie tout à l'heure, le sens au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que syndicat, on a fait le tour des accueils de l'assurance maladie dans le département. Malheureusement, on a des collègues qui ont un très très haut niveau de conscience professionnelle, et c'est pareil là, pour les gens qui traitent les dossiers à l'arrière. Et ces agents d'accueil nous disent aujourd'hui, les assurés viennent nous voir, et quand ils sont devant le fait accompli, le fait qu'on puisse très peu les renseigner, ils nous disent mais alors, vous servez à rien en fait. Et figurez-vous qu'il y a une très très large majorité des collègues agents d'accueil qui nous disent et on est obligé de leur donner raison. Et on a des témoignages comme ça, et ça, c'est un impact très important sur les collègues de travail, sur leur santé mentale. Parce qu'ils sont touchés, ils sont impactés directement par cette mauvaise réputation qu'on peut avoir. Parce que notre directeur nous dit « Oh, il y a un indice de satisfaction de nos publics qui est magnifique. » Nous-mêmes, on n'en est pas convaincus. Parce qu'on sait ce que notre direction nous demande de faire. Et petit clin d'œil au passage à la direction de ce qu'ils appellent la relation client, parce que vous avez vu la vision qu'a notre direction de nos publics, qui sont des assurés sociaux. Et on n'a pas de clients, nous, c'est pas vrai. On a des assurés sociaux, des assurés auxquels il faut répondre aux besoins. Donc simplement, on a quelques témoignages à l'accueil. On a un agent qui nous a dit « Vous vous rendez compte ce que c'est mon travail aujourd'hui ?» En fait, j'ai des informations sur mon écran que je ne peux plus communiquer à l'assuré qui vient, qui est malade, hein, qui est malade ou alors qui attend le versement d'un accident de travail ou un heureux événement, une maternité, mais qui attend un revenu de remplacement quelquefois. Et donc, on a une information à l'écran qu'on ne peut pas communiquer à l'assuré qui est en face. Et donc, cet agent d'accueil me dit « Tu te rends compte, c'est quoi mon travail ?» Mon travail, c'est de remplir un mail pour l'assuré un mail auquel je vais répondre moi-même dans l'après-midi, voire le lendemain. Donc, c'est une dissuasion. On dissuade ainsi les assurés de venir dans nos accueils. Et ça s'appelle la numérisation à marche forcée. C'est-à-dire que notre direction dégrade volontairement la qualité de service rendu dans nos accueils, tout simplement pour que les assurés se disent « Oh, ben, je vais pas me déplacer, je vais appeler. » Puis finalement, « Oh, ben, finalement, je vais aller sur Amélie.fr. » Et puis, je vais discuter avec le chatbot, alors le petit robot, AméliBot, le petit robot là, qui, pour s'en sortir avec celui-là, il faut sortir de l'ENA quelquefois. Donc voilà, on a une dégradation volontaire de la qualité de service rendu aux assurés. Bien sûr que ça impacte les assurés et notre devoir, c'est de le dire. Mais également faire prendre conscience que toutes les politiques qui sont mises en place, y compris ce qui peut être discuté à l'Assemblée, il faut savoir que hier, on avait Cécile Velasquez, la secrétaire de la Fédération CGT des organismes sociaux, qui était présente devant l'Assemblée. Parce qu'il y a aujourd'hui en discussion le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous impacte tous en tant qu'assurés, mais qui impacte grandement aussi les collègues de l'assurance maladie, les salariés de l'assurance maladie.
Bon, je saisis la balle au bon, je crois, parce qu'on va parler PLFSS. Alors je vais essayer de ne pas être trop technique ou de donner trop de chiffres, mais on est quand même un peu obligé. Parce que moi, je fais le lien avec ce que tu viens de dire, Sébastien. Quand l'accueil de la Ciotat, la direction dit « on va le fermer », un accueil de proximité, qui, c'est vrai, recevait peu de monde, mais qui rendait un énorme service à la population. La Ciotat, c'est une ville balnéaire, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, beaucoup de problèmes de santé. Eh bien, on se doit d'avoir un accueil dans toutes les zones du département pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et la direction nous dit, oh, ben c'est bizarre, c'est bête, hein, la fréquentation de l'accueil de la Ciotat a baissé, donc on le ferme. Ce qu'on a observé, c'est effectivement, ils ont organisé cette baisse, hein, avec ce que tu as décrit. Mais surtout, comme par hasard, il y a une Maison France Service qui a ouvert juste devant l'accueil. Hein, vous savez, ces Maisons France Service promises par Macron suite aux Gilets jaunes, hein, pour dire, voilà, vous voulez plus de services publics, je vous en donne. Mais la Maison France Service est financée par la mairie, avec deux contrats précaires mis dedans. Et en gros, il y a un ordinateur et ça fait boîte aux lettres. Et ils ont même poussé le vice jusqu'à aller demander à certains de nos agents de peut-être éventuellement aller former les agents de la Maison France Service en face de leur accueil, pour ensuite fermer. Une fois qu'on avait formé ceux qui allaient nous remplacer, on ferme, voilà. Alors, tout ça pour dire quoi ? C'est qu'effectivement, l'accueil de la Ciotat, il a fermé. On vend l'immobilier, hein, le site qui contenait cet accueil, qui est un immobilier qui appartient à tous les assurés sociaux. Hein ? Alors, tu me dis...
C'est un bail.
C'est un bail, voilà.
On met fin au bail.
Voilà, on met fin au bail, mais effectivement, il y a des sites qu'on va vendre. Bon, pour la Ciotat, c'est une chose, mais de toute façon, il y a beaucoup d'argent qui remonte suite aux fermetures. Hein, si je m'abuse, il y a déjà eu 19 fermetures d'accueil de ce type en 10 ans à la CEPAM des Hauts-du-Rhône. Et tout cet argent remonte et il se traduit en haut par quoi ? Par des baisses d'impôts. Pour qui ? Pour les plus riches. Et c'est là qu'on va nous dire, hein, pas pour nous non, nous les impôts on les paye toujours autant, hein, on va nous dire voilà, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et effectivement ce qu'on s'est aperçu c'est que depuis 2017, l'élection d'un certain Macron Emmanuel, hein, il y a des mesures d'allègement de cotisations sociales, les fameuses charges dont tu parles Jean-Marie, hein, qui s'évaluent entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Et ces exonérations de cotisations, elles sont permises effectivement par tout ce qu'on a dit. Donc en gros, c'est pas qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est que c'est organisé parce que ces 80 milliards de suppression de cotisations par an depuis 2017, c'est ce qui constitue, hein, le fameux trou de la Sécu, mais c'est aussi ce qui constitue la dégradation de toutes les conditions de travail dont on a parlé, mais aussi du service public. Le fait qu'on ne puisse plus répondre aux assurés, qu'on n'ait plus les moyens, hein, qu'on ferme des accueils de proximité, etc., etc. 80 milliards de suppression de cotisations sociales qui ne vont plus dans la Sécu, qui vont dans les poches de qui ? Ben on va le dire. Des grands groupes, des patrons, hein, en allègement, en exonération de cotisations sociales. Et ça, c'est le vrai scandale. Parce qu'après, on a un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous dit, voilà, regardez, le budget de la Sécu, c'est 650 milliards par an. Alors, je parle de milliards, c'est vrai qu'on a peine à imaginer, hein, tellement on balance des chiffres comme ça. Je vous en donner une équivalence, c'est deux fois le budget de l'État. Entre deux fois et deux fois et demi le budget de l'État. Vous imaginez ? C'est plus que ce qu'il faut pour faire tourner tous les autres services publics, l'éducation nationale, la justice, c'est deux fois et demi ça, la police, tout. C'est ça le budget de la Sécu. Et on nous dit il va y avoir un déficit de 18 milliards, donc 2,5% de déficit, et tout risque de s'écrouler. C'est une blague. Et donc, sous ce prétexte-là, on dit on va raboter. C'est-à-dire, on va encore diminuer parce qu'il faut, effectivement, réduire le déficit. Donc, le PLFSS, le projet de loi de financement de la Sécu, en gros, c'est censé être discuté à l'Assemblée nationale par les députés, puis éventuellement voté ou pas. Ensuite, ça va au Sénat, pour faire court. Alors, le Sénat est à majorité de droite, donc eux, ils veulent voter. Eux, dès qu'il y a moins de budget, ils sont contents, ils votent. Mais ce que compte le gouvernement aujourd'hui, il ne veut pas passer par 49.3, de ce qu'on sait, parce qu'ils ont peur de se prendre une censure. Donc, ils vont attendre, ils vont jouer la montre. Passer 60 jours, le texte va aller directement au Sénat, sans amendement. Et aujourd'hui, les amendements, c'est une grosse partie du travail des parlementaires qui, il faut le dire, il y a le NFP, vous en avez entendu parler, qui ont voté plus de 2000 amendements. C'est quoi un amendement ? C'est une modification du texte original, par exemple pour dire les exonérations de cotisations, ça suffit quoi. Il y a un amendement encore qui a été déposé hier par un député pour dire on va supprimer un amendement qui donnait 3 milliards d'exonérations de cotisations sociales, il n'est pas justifié. Ces 3 milliards, ils vont dans la caisse de sécu. Si on avait suffisamment d'amendements qui passent, il n'y aurait même pas trop de la sécu. À la place, il y aurait une montagne. Moi, de l'argent, je vous en trouve, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. C'est qu'effectivement, il y a un partage des richesses qui est scandaleux et qui se fait que dans un sens. Le fameux ruissellement, il est à l'envers aujourd'hui. Macron, c'est Robin des Bois qui pique aux pauvres pour donner aux riches. Ça, il faut le dire. Donc ce PLFSS, en gros, aujourd'hui, il est en discussion jusqu'au 4 novembre. Le gouvernement, pour résumer, espère bien le faire passer comme ça, ouf. Pas par 49.3 parce que ça le gênerait, il y a un risque de censure. Donc ils espèrent passer Noël quand même. Ce gouvernement illégitime, redisons-le, qui n'a aucune légitimité. J'insiste, il n'a aucune légitimité ce gouvernement. Donc en plus, il prétend nous imposer une austérité, une destruction de nos services publics, donc un appauvrissement de toutes nos conditions de vie à nous, salariés, assurés sociaux français, de Français de Navarre, du pays du moins, usagers des services publics. Et en gros, il n'a aucune légitimité pour le faire parce qu'il n'est pas élu, il n'est pas issu d'une élection, je suis désolé. Il est nommé un parti qui fait moins de 5% aux élections, il n'a aucune légitimité à venir nous dire c'est l'austérité. D'autant plus que l'argent, il y en a plein. Il y en a plein les caisses, je le redis. Déjà, suppression de ces 80 milliards d'exonérations de cotisations qui ont surtout été profitées aux plus grands groupes. Total, c'est gavé. Sanofi, on en parle. Ils viennent de fermer une usine. Ils ont pris quand même 3 milliards et demi, je veux dire, sur ces exonérations. Et 1 milliard et demi d'argent public en plus pour fermer leur usine et aller en Allemagne. Mais c'est une blague. On voit bien, en fait, ce qui se passe. Donc nous, on a des éléments, on a des propositions pour dire que l'austérité, ce n'est pas une fatalité. Il n'y a plus d'argent dans les caisses parce que le gouvernement les a vidés pour les donner aux plus riches. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Comme le suggérait Jean-Marie, j'arrêterai là, les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Voilà. On est 95% dans ce pays à ne pas avoir de patrimoine. Quand je dis patrimoine, c'est quoi ? Effectivement, c'est à avoir besoin de travailler pour vivre. Il y en a qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre aujourd'hui dans ce pays. Ils possèdent énormément. Eh bien, avec ce gouvernement, ils auraient encore plus. Et il faudrait qu'ils vendent nos services publics parce que finalement, le PLFSS, s'il est mis en œuvre, qu'est-ce que ça va être ? Je prends une seule mesure. La baisse de 10% du taux de remboursement de la consultation. Quand vous allez chez le médecin aujourd'hui, c'est à 70%. Là, ça va passer à 60%. Vous allez me dire, moi, je m'en fous, j'ai une mutuelle. Mais votre mutuelle, elle va coûter plus cher. Voilà. Et ceux qui n'ont pas de mutuelle, c'est juste 4 millions de personnes en France. Une paille. Voilà. Eux, ils ne vont pas se soigner. Et là, Macron va venir nous dire « Ah, on va faire un machin contre le renoncement aux soins. On va nous proposer d'aller vers les assurés, donc de les appeler pour leur dire « Vous prenez une mutuelle, monsieur ?» C'est une blague, en fait. On prétend répondre aux problèmes qu'on crée nous-mêmes. Alors que nous, on a des solutions. Elles sont très simples. Prendre dans des poches qui sont un peu trop garnies, excusez-moi, pour donner à des poches qui crient famine. Et c'est le bon sens, je veux dire. On peut sauver nos services publics. Par contre, ça suppose une mobilisation populaire. Et moi, je suis persuadé, je m'arrêterai là, je fais confiance effectivement à la mobilisation populaire parce qu'on l'a observé avant cet été, dans d'autres circonstances. Les gens savent se mobiliser, ils savent ce qui est bon pour eux. Aujourd'hui, le PLFSS et tout ce qui suit derrière, c'est au moins de la même gravité que ce qu'on a vécu, j'insiste, avec le risque d'ascension du RN au pouvoir. Alors c'était plus évident, plus violent, législative, avec un risque effectivement que les fascistes arrivent au pouvoir. Mais demain, ce ne sera pas moins pire si jamais on perd les services publics. Et ce PLFSS, c'est la perte des services publics, j'insiste, parce qu'on transfère des charges aux mutuelles. Et ça veut dire qu'on privatise le système. Et ça, on ne peut pas l'accepter.
Bien, merci pour toutes ces postillons. Je vais demander à la régie de mettre un peu de musique. Merci la régie. Et j'ai oublié de vous la présenter, la régie. Alors bonjour la régie, merci pour ce que vous faites. Prenons le cours de l'émission après cet intermède musical que j'ai apprécié.
Ouais, merci la régie, merci Daniel. Simplement, bien sûr, on fait un constat. On est venu aussi aujourd'hui pour, bien sûr, avec des propositions, des solutions, tout ce qui concerne la sécurité sociale, parce qu'on connaît un petit peu quand même. Mais on revient aussi sur la politique salariale de nos caisses. Il faut bien se rendre compte qu'on lit ce PLFSS, qu'on lit ces plans d'austérité avec l'austérité salariale pour les salariés de la caisse, de la CEPAM 13 et bien sûr de toutes les caisses de France, que ce soit des CEPAM, des CAF, des CARSAT, des URSAF. Simplement, on est face à un constat aujourd'hui que si on prend pas en main notre destin, ça va continuer. On l'a vu, on l'a dit depuis 2010, il y a eu 5% d'augmentation de la valeur du point à la sécurité sociale. C'est 5%, ce n'est pas 2010. 2010, c'est 0. 2011, c'est 0. 2012, c'est 0. Il faut attendre 2022 où on obtient 3,5%. Parce que ça faisait plus de 10 ans qu'on avait 0%. C'est 3,5% en 2023. C'est 1,5% en 2023, et 3,5% en 2022. On les a eus seulement parce qu'on s'est battu. On les a eus seulement parce qu'on a organisé la lutte. Sinon, c'était 0%. Et ce qu'on dit à nos collègues de la CEPAM 13, on est l'une des plus grosses caisses de France. Et il va falloir que Marseille se réveille. On l'a dit, le dernier conflit social majeur à la CEPAM 13, il date, désolé de le dire comme ça, camarades, du siècle dernier. Donc aujourd'hui, on a un appel à venir massivement le 7 novembre. C'est rendez-vous à 9h devant le siège de la CEPAM 13. Et on appelle tous les salariés de la caisse à venir massivement, on l'a dit, de l'entier département. C'est la seule solution pour avoir une avancée. Aujourd'hui, la seule certitude qu'on a, c'est que si on ne bouge pas, on aura 0%. On n'aura rien du tout. Donc on appelle l'ensemble des salariés à venir. On a quand même de bons retours du terrain. Parce qu'effectivement, on se dit... tu imagines bien qu'on a fait du phoning, on a appelé un peu les collègues, qu'on a fait une tournée de prise de parole dans tout le département, et qu'on voit que non seulement les collègues sont très sensibles sur ces sujets, mais en plus, il y a une volonté d'y aller. On a fait un petit peu du phoning, là, il y a quelques sites qui vont être massivement représentés, des sites qui ne sont pas forcément de Marseille. Donc on appelle les Marseillais à y être massivement, et on sait qu'il y aura des nouveaux visages. Et pour nous, c'est de l'espoir. Parce qu'on est en train de construire un rapport de force. La seule chose qui pourra nous sortir de l'ornière et faire en sorte qu'on reparte la tête haute et qu'on fasse entendre à tous les directeurs qui seront là le 7 novembre qu'il faut s'arrêter, qu'il faut maintenant arrêter de nous observer. Tu as compris, Daniel, c'est l'Observatoire régional de la rémunération. Arrêtez de nous observer, augmentez-nous.
Ouais, vraiment, le message aujourd'hui, on n'est pas juste dans la déploration ou dans la dénonciation ou même dans l'analyse. On est vraiment dans l'action, en fait. Je crois que c'est le plus important. Comment sortir de notre impuissance politique, qu'elle soit à la Sécu ou dans le pays? Moi, je relis toujours les situations parce que je trouve ça très frappant, effectivement. On a une situation où le directeur nous dit, ben, quand on fait une manifestation au siège et qu'on est 50, ben, il nous dit, voilà, il y a 1950 personnes qui sont contentes, donc ça ne vous augmente pas. Mais là, si demain on est 300, 400, et moi j'ai bon espoir, je sais que ce sera très suivi, eh ben, on n'est pas sûr d'être augmenté. Par contre, on est sûr d'une chose, c'est que si on n'y va pas, il n'y aura rien. Voilà. Et ça se vérifie à tel point qu'effectivement, tu l'as dit, hein, en 2022, on a mis fin à une spirale de 13 ans. Mais parce que les salariés se sont massivement mobilisés avec des grèves reconductibles, qui n'étaient pas faciles. Hein. Mais nous, on a joué notre rôle. Le syndicat, on leur dit, c'est un outil au service des salariés. Et derrière, ben, si ça suit, on a des avancées sociales. Et ben, pour sortir de notre impuissance politique, moi, c'est le message que je voudrais donner aussi aux salariés qui nous écoutent, mais aussi à tous les auditeurs, quelque part. Si c'est au niveau du pays, c'est pareil. Il n'y a que la mobilisation populaire, honnêtement, qui peut faire plier les choses aujourd'hui. Face à un pouvoir devenu sourd, aveugle et illégitime, je le redis, il n'y a pas 36 solutions. Hein, on peut se taper la tête contre les murs, faire l'autruche, ce que vous voulez, mais finalement, seule la mobilisation populaire, donc appelons-le, disons le gros mot, la lutte, hein, mais organisée, pas n'importe comment aussi, il y a des outils pour ça, hein, renseignez-vous, ben, peut permettre aux citoyens de reprendre leur puissance politique en main. Qu'est-ce que j'entends par là quand je dis puissance politique? Nos dirigeants nous disent toujours la démocratie, c'est aller voter. Donc en gros, on vivra en démocratie parce que tous les 5 ans, on va mettre un bulletin dans l'urne. Et puis, pendant 5 ans, on laisse les clés de la maison au gars. Hein. Et puis au bout de 5 ans, il vient, il vous dit, il y a le feu. Hein, j'ai mis le feu et tout. Donc vite, vite, votez. C'est ça la démocratie? Non. Pour nous, la démocratie, on la fait vivre pendant les 5 ans, entre chaque élection. C'est tout, au jour le jour. C'est s'investir dans un syndicat, dans une association, dans la vie de son quartier. C'est vraiment militer pour que ces conditions de vie... Hein, ben, les choses changent, se faire remarquer, parce qu'on a des puissants aujourd'hui, des élites qui nous dirigent, qu'effectivement, ben, si vous ne faites pas remarquer, ils ne vous remarquent pas. Donc voilà, encore une fois, le message aujourd'hui, c'est un message d'espoir, parce que ce n'est pas qu'on est impuissant, c'est qu'ils ont plutôt essayé, et parfois réussi, de nous faire rentrer dans le crâne, qu'on était impuissant. Mais on ne l'est pas, et on est là pour vous le rappeler. Vous avez votre propre pouvoir entre les mains, hein. Et une fois que vous réalisez ça, vous pouvez faire de grandes choses. Voilà, vous pouvez changer votre vie, vraiment. Moi, j'insiste.
Alors, je vais essayer de ne pas faire de la redite, mais bon, vous avez compris que le fait mot de l'histoire, ça reste la lutte et la mobilisation. Et encore une fois, alors j'ai le rôle aujourd'hui, j'essaie de faire toujours le lien et la convergence avec les assurés. Donc, on a un programme, le 7 novembre, c'est un point fort, mais on a un programme qui s'étale jusqu'au mois de décembre. Donc, soyez, j'ai envie de dire, indulgents si jusqu'au mois de décembre, vous voyez un accueil fermé. Ne dites pas, ah non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est encore des branleurs, c'est encore des gens qui ne travaillent pas. Pensez que si les gens sont en grève à la Sécurité sociale, c'est aussi pour votre bien, parce qu'améliorer nos conditions de travail, c'est ce que je disais dans ma première intervention, c'est aussi améliorer votre rendu et améliorer les conditions de tous les assurés. Et moi, je me dis aussi qu'il faut qu'on casse un peu les mythes des chiffres, parce que à travers les interventions des camarades qui parlent de mobilisation, c'est vrai que aussi un de nos combats à nous, c'est de se dire que la sécurité sociale, c'est pas l'outil de l'État, mais c'est l'outil qui doit être dans les mains du travailleur. Et ça, c'est un combat de longue haleine. C'est le combat qu'a voulu mener Ambroise Croizat à la création de la Sécurité sociale. Et on essaye, nous, hein, on n'est pas à la hauteur d'Ambroise Croizat, mais on essaie de continuer à porter ce combat-là, de dire ben, la Sécurité sociale, elle est pour servir les assurés, mais elle doit aussi être aussi, du coup, gérée par les assurés. Et ça, c'est un combat que les libéraux ne veulent absolument pas. Vous avez bien compris l'intérêt. Et quand je vous disais tout à l'heure, il faut casser un peu le dogme des chiffres, parce qu'on vous abreuve de chiffres. Et des fois, il y a des chiffres qui vous noient plus qu'ils vous informent. Moi, je voudrais quand même donner le chiffre du budget du gouvernement. C'est à peu près entre 300 à 350 milliards d'euros. Et le budget de la sécurité sociale pour 2024, c'est, je crois, 650 milliards d'euros. Donc vous avez bien compris que les gens qui ont dévasté notre service public et qui ont géré les finances publiques comme des ânes, hein, on va se le dire.
Comme hein, des romanciers de Bani.
On est à Marseille. Hein. Si c'était les mêmes dans une société privée, je pense qu'ils auraient été virés depuis bien longtemps. Donc ces mêmes personnes ont un seul objectif, c'est de s'accaparer le magot pour eux, hein, le magot qui est la sécurité sociale et le budget de la sécurité sociale. Donc moi, je me dis, il faut que le problème de la sécurité sociale, la survie de la sécurité sociale, ça passe par le financement, ça passe par de meilleurs salaires. Donc le message, il est aussi donné à tous les travailleurs. N'acceptez pas la précarité, battez-vous pour de meilleurs salaires, parce que de meilleurs salaires, ça veut dire derrière plus de cotisations, un meilleur service public, ça veut dire une sécurité sociale pour vous, pour vos proches, moins de coûts financiers pour la santé. Et donc, c'est une victoire qui est générale. Donc, nous, le 7, on se battra pour nos salaires. Mais ce combat-là, il est pas catégoriel, quelque part. Il est aussi, il a une ampleur beaucoup plus grande. Donc, le 7 est une date marquante pour nous. On se veut, je répète, parce qu'on disait Valmont, donc c'est 56 chemin Joseph Aiguë. Mais nous, on sera là. On aura des camarades du département, de la région. Mais moi, je vous dis, voilà, c'est le début de quelque chose qui doit être important, parce que la reconnaissance du travail, il faut qu'elle soit un véritable combat, que ce soit à la Sécu ou de partout dans le monde du travail. Voilà.
Daniel, peut-être un dernier mot, parce qu'on aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, si tu nous réinvites, bien entendu, on sera là pour parler du logiciel Arpège, parce que Jean-Marie nous dit qu'il faut être les assurés doivent être indulgents avec nos mouvements, parce que bien entendu, on défend la Sécu. On pourrait en parler, mais là, il prévoit, par exemple, de stopper la production pendant 10 jours pour la mise en place d'un logiciel. C'est un logiciel qui est au service de la casse de la sécurité sociale. Et c'est ce qu'on dénonce de l'intérieur. Et ce qu'on dit aux assurés, bien entendu, mais le message aux salariés, c'est qu'il faut relever la tête. Qu'on a une stratégie de lutte qui a en ligne de mire le 18 décembre sur une réunion sur notre valeur du point, et que si on relève la tête pour nos salaires, nos directions vont se rendre compte qu'on se bat et on pourra améliorer nos conditions de travail. Et par là, on pourra améliorer la qualité de service rendu aux assurés sociaux. Voilà. Donc ce combat, il est étroitement lié. On va y aller. On se rend compte que notre direction, on t'en a parlé tout à l'heure, Daniel, nous fait passer les mauvais coups pendant les vacances et nous a sorti une lettre de cadrage de la rémunération en plein été. Là, le dernier mauvais coup en date, c'est la semaine dernière, pendant les vacances, où ils ont dit « Ah ben tiens, on va vous payer, mais à effet rétroactif, tiens, on va mettre ça en avril. » C'est la preuve qu'ils nous craignent et qu'ils craignent la réaction et la mobilisation des travailleurs tous ensemble. Donc on va y aller tous ensemble et on va se faire entendre.
Bon, donc rendez-vous le 7 au siège social, c'est bien ça.
56 chemin Joseph Aiguë.
Voilà, donc dans le 9e arrondissement, oui, c'est ça. Bien, il est 14h58, nous allons rendre l'antenne. Merci à tous les trois. Merci Sidi d'avoir repris la régie, que le copain est parti.
Merci Sidi,
je vous donne rendez-vous.
Radio Galère. Je
vous donne rendez-vous mercredi prochain, nous aurons la Libre Pensée qui viendra faire son émission donc, du mois. Voilà. Bon après-midi à toutes et à tous et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.